Canal Académie.
La plateforme de podcast de l'Institut de France.
Pascal, pensée pour aujourd'hui. Pensée 653. Si nous rêvions toutes les nuits la même chose, elle nous affecterait autant que les objets que nous voyons tous les jours. Et si un artisan était sûr de rêver toutes les nuits, 12 heures durant, qu'on est roi, je crois qu'il serait presque aussi heureux qu'un roi qui rêverait toutes les nuits, 12 heures durant, qu'il serait artisan. Si nous rêvions toutes les nuits que nous sommes poursuivis par des ennemis et agités par ces fantômes pénibles, et qu'on passa tous les jours en diverses occupations comme quand on fait voyage, on souffrirait presque autant que si cela était véritable, et on appréhenderait le dormir comme on appréhende le réveil quand on craint d'entrer dans de tels malheurs, en effet. Et en effet, il ferait à peu près les mêmes mots que la réalité. Mais parce que les songes sont tous différents et que l'un même se diversifie, ce qu'on y voit affecte bien moins que ce qu'on voit en veillant, à cause de la continuité qui n'est pourtant pas si continue et égale qu'elle ne change aussi, mais moins brusquement, si ce n'est rarement, comme quand on voyage. Et alors on dit « Il me semble que je rêve ». Car la vie est un songe un peu moins inconstant.
Fragment 653, si nous rêvions toutes les nuits. Le fragment 653 des pensées correspond, sur le manuscrit original de l'œuvre, à un ensemble de 10 textes d'une longueur extrêmement variable, allant de quelques mots à 3 paragraphes développés, écrits de la main de Pascal au recto et au verso d'un seul feuillet. Soucieux d'utiliser tout l'espace que la page lui offrait, Pascal y a multiplié les notations, traçant entre elles, pour les distinguer, des traits horizontaux et, en haut à droite de la page, des traits verticaux. La 7e unité, la plus longue, est constituée de 3 paragraphes occupant pour les 2 premiers 5 lignes et 6 pour le dernier. Mais plusieurs mots barrés sur la première ligne de celui-ci font que sa longueur est en réalité similaire au précédent. Il compte d'ailleurs respectivement 59, 76 et 77 mots. Cette uniformité et l'ouverture des premiers paragraphes par une anaphore, si nous rêvions toutes les nuits, tandis que le verbe rêver est repris dans l'avant-dernière phrase de l'ensemble, crée un puissant effet de refrain. Le fragment tient plus du poème strophique que de la dissertation impromptue. Tout le texte est marqué par des répétitions et des jeux d'écho, à l'échelle de simples mots, comme artisan, roi ou songe, mais aussi de syntagmes plus longs, à l'instar de 12 heures durant ou comme on fait voyage. Pascal introduit encore plusieurs polyptopes, c'est-à-dire qu'il emploie différentes formes grammaticales d'une même racine. Rêvions, rêver, rêverait, rêve ou on appréhenderait, on appréhende. Voire encore continuité et continu, réveil et veillant. Toutes les nuits, répétées à 4 reprises, se voient à la fois repris et inversé par « tous les jours » dans le premier et le second paragraphe. Ce dispositif, comme l'usage de la forme substantivée archaïque « le dormir » et la modulation d'un alexandrin, car la vie est un songe un peu moins inconstant, font du passage un véritable poème en prose, hanté par le modèle du verset biblique et une possible réminiscence musicale. Une très belle chanson de Clément Jeannequin, très connue du XVIIe siècle, s'ouvre sur l'attaque toutes les nuits. Les éditeurs de Port-Royal ne s'y trompèrent pas. Ce magnifique fragment figure dans toutes les éditions des Pensées, depuis leur premier tirage en 1669, et à chaque fois, il est donné comme une pièce autonome. Texte, ou étymologiquement tissu, qui se plie et se déplie, chatois et ondoie au fil de la lecture, le fragment a une portée incantatoire. Il charme son lecteur, il l'hypnotise, mimant ce qu'il évoque, à savoir la puissance d'envoûtement que détient la répétition d'un phénomène, a fortiori diffus et insistant comme le songe. Celui-ci, enveloppant l'individu, voile ses perceptions et insensiblement l'amène à confondre illusion et vérité, rêve et réalité. Loin que le caractère musical du passage invite à lui donner une portée essentiellement lyrique ou esthétique, il étaye deux arguments forts. Le premier se rapporte au pouvoir de la machine. Pascal nomme ainsi la partie mécanique de l'homme, ce qui relève en lui de l'habitude, habitude physique, mais aussi intellectuelle et morale. Ce sont les gestes ou les opérations mentales qu'on accomplit de manière spontanée, machinale, sans y songer, parce que, profondément imprimés en nous, ils en sont venus à constituer une seconde nature. Cette machine, à laquelle Pascal fait allusion dans plusieurs autres fragments, s'apparente à la coutume chez Montaigne. Dans le chapitre 36 du premier livre des Essais, intitulé « De l'usage de se vêtir », le philosophe rappelle que le mot dérive de « costume ». La coutume revêt l'homme, elle l'entrave et le travestit. Elle le dénature. Pascal insiste également sur son extraordinaire pouvoir. Un artisan, assuré de rêver toutes les nuits, 12 heures durant, qu'il serait roi, serait, dit-il,
presque aussi heureux qu'un roi qui rêverait toutes les nuits, 12 heures durant, qu'il serait artisan.
Heureux signifie, dans la langue du XVIIe siècle, content, à qui il ne manque rien, qui jouit de toutes les félicités de la vie, qui a du bonheur. Artisan et roi, à condition qu'ils soient soumis à une expérience régulière et durable, estimeraient leur nouveau sort assez naturel pour s'en satisfaire l'un et l'autre, quand même celui-ci serait aux antipodes de leur première condition. Tel est le pouvoir d'imprégnation et de transformation de la répétition, de l'habitude, disons-le, de la machine. Deux détails méritent toutefois de retenir l'attention. D'abord, pourquoi Pascal pose-t-il qu'un artisan se rêvant roi serait presque aussi heureux qu'un roi se rêvant artisan ? L'état de roi n'est-il pas en principe plus enviable que celui d'artisan ? Mais Pascal interroge, dans le fragment 169, intitulé « Divertissement », la dignité royale n'est-elle pas assez grande d'elle-même pour celui qui la possède ? Pour le rendre heureux par la seule vue de ce qu'il est ? Avant de répondre par la négative, la phrase est célèbre et a donné le titre d'un roman de Jean Giono, « Qu'on laisse un roi tout seul, sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin dans l'esprit, sans compagnie, on sert à lui tout à loisir, et l'on verra qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misère. » En réalité, sans misère domestique pour le divertir, accablé de responsabilités pesantes, un roi est bien plus malheureux que ses sujets. La grandeur ne soulage pas. Au contraire, elle expose, selon le roi Salomon dans l'Ecclésiastique, à une misère supérieure à celle des gens du commun. Grand lecteur de la Bible, Pascal a sans doute la référence à l'esprit. Elle lui permet de conférer à son propos une coloration paradoxale, propre à retenir l'attention du lecteur. La cadence chaloupée de l'expression ne minore en rien la densité de la réflexion que celle-ci propose. Seconde étrangeté, Pascal n'écrit pas comme il conviendrait. Si un artisan était sûr de rêver toutes les nuits, 12 heures durant, qu'il est roi, mais qu'on est roi. Les premiers éditeurs notent la bizarrerie et la corrigent. Mais la formule originale trahit, par l'usage du pronom indéfini plutôt que de la troisième personne du singulier, un glissement significatif du cas particulier d'un artisan à une expérience générale propre à tous, y compris à l'auteur du texte. Pascal ne rapporte pas une anecdote plaisante, il formule une vérité gnomique. Tous, nous sommes cet artisan. Tous, nous sommes, comme lui, machines. Tous, par la machine qui relève du corps, nous tenons de l'animal. La nature de l'homme est toute nature, omné animal, pose le fragment 523. Première strophe, première leçon d'humilité. Le second paragraphe travaille la même idée. Il ne s'agit pas cependant d'une banale reprise au moyen de nouveaux exemples, fussent-ils nettement plus sombres par l'introduction des motifs de la guerre.
Si nous rêvions toutes les nuits que nous sommes poursuivis par des ennemis et agités par ces fantômes pénibles,
ou du voyage,
et qu'on passa tous les jours en diverses occupations comme quand on fait voyage,
le voyage, faut-il le rappeler, n'est pas au XVIIe siècle une sinécure. Une occupation désignant, d'après le dictionnaire de Pierre Richelet, un emploi, un travail, une affaire, a une valeur négative dans une société qui a pour idéal l'otium literatum, le loisir lettré, et non le labeur, conséquence funeste de la sortie du jardin d'Éden. Pascal passe, en effet, de l'idée que ces rêves répétés nous affecteraient, je le cite, autant que les objets que nous voyons tous les jours, à celle que le dormir ferait à peu près les mêmes maux que la réalité. C'est-à-dire que le pouvoir effectif d'expériences vécues dans le sommeil, d'expériences au sens propre fantasmatiques, serait quasi identique à celui d'expériences réelles. Cette conclusion l'autorise à formuler un deuxième axiome, ciselé dans l'envoi du fragment. La vie est un songe un peu moins inconstant, sous-entendu moins inconstant que le songe lui-même. Ce que Pascal module cette fois, c'est que l'existence humaine elle-même est une illusion dépourvue de consistance. Curieusement, l'affirmation vient conclure un troisième paragraphe où il s'emploie à établir qu'il est impossible de confondre véritablement la vie qu'on mène en rêve avec celle qu'on mène en veillant. Parce que les songes, dit-il, sont tous différents et ne cessent de se métamorphoser, de sorte qu'ils affectent bien moins que les événements de la vie éveillée, certes inégales et portées à tout altérer. Pascal écrit dans un autre passage du fragment 653 « Le temps guérit les douleurs et les querelles parce qu'on change, on n'est plus la même personne. » Mais ces transformations ont lieu moins brusquement, de sorte que leur effet immédiat est moindre. Aussi, ce n'est que rarement, poursuit-il, comme quand on voyage, qu'on est saisi par l'impression non de vivre, mais de rêver. Dans ces conditions, l'envoi du fragment, d'autant plus frappant qu'il reprend le titre d'une pièce du dramaturge espagnol Calderón, parue en 1636, « La vie est un songe », paraît un coup de force, destiné à imposer in extremis une idée plus chère à l'auteur que le raisonnement ne dictait qu'elle s'imposa pour finir. Mais est-ce véritablement le cas ? Le thème de la vie comme un songe est ancien. Platon présente, au livre 7 de la République, l'allégorie dite de la caverne. Socrate explique à ses interlocuteurs que les hommes se trouvent dans une situation comparable à celle d'individus enchaînés à l'intérieur d'une caverne obscure et tournant le dos à son entrée. Ils ne discernent aucun objet en propre, mais seulement les ombres qui en sont projetées, depuis l'extérieur, sur les parois de la grotte où ils ont été mis. Le récit est une expérience de pensée afin de signifier que les hommes n'ont pas accès aux choses ou à la vérité, mais seulement à des apparences. Les merveilles du monde intelligible sont de façon spontanée inaccessibles à la créature. L'allégorie est une fable destinée à figurer la situation épistémologique de l'homme ainsi qu'à signifier la théorie platonicienne des idées. La source de Pascal n'est pas Platon, cependant, ni Calderón. Il s'inspire du chapitre 12 du livre 3 des Essais de Montaigne, la célèbre Apologie de Raymond Sebond. Montaigne y avait introduit, dans la troisième édition des Essais, en 1588, un développement sur la contiguïté entre vie et songe. Il semble que l'âme retire au dedans et amuse les puissances des sens. Par ainsi, et le dedans et le dehors de l'homme est plein de faiblesses et de mensonges. Ceux qui ont apparié notre vie à un songe ont eu de la raison et à l'aventure plus qu'ils ne pensaient. Quand nous songeons, notre âme vit, agit, exerce toutes ses facultés, ni plus ni moins que quand elle veille. Mais si plus mollement et obscurément, non de temps certes que la différence y soit comme de la nuit à une clarté vive. Oui, comme de la nuit à l'ombre. Là, elle dort. Ici, elle sommeille plus et moins. Ce sont toujours ténèbres et ténèbres cimériennes. Son livre publié, Montaigne enrichit le passage d'un long ajout manuscrit qui figure dans les éditions ultérieures des essais. Il y force encore le trait. Nous veillons dormant et veillant, dormons. Je ne vois pas si clair dans le sommeil, mais quant au veillé, je ne le trouve jamais assez pur et sans nuages. Encore le sommeil en sa profondeur endort parfois les songes. Mais notre veillé n'est jamais si éveillé qu'il purge et dissipe bien à point les rêveries, qui sont les songes des veillants, et pire que songes. Notre raison et notre âme, recevant les fantaisies et opinions qui lui naissent en dormant, et autorisant les actions de nos songes, de pareille approbation qu'elle fait celle du jour, pourquoi ne mettons-nous en doute si notre pensée, notre agir, n'est pas un autre songe, et notre veillée, quelque espèce de dormir. Pascal s'inspire étroitement de Montaigne, auquel il emprunte l'infinitif substantivé, le dormir. Il n'est plus tant question, chez l'auteur des essais, de l'inaccessibilité du vrai, comme chez Platon, que de l'inconstance de l'esprit humain, de son impuissance intrinsèque. Montaigne fait le procès de l'intelligence qui pense pouvoir prouver l'existence de Dieu. C'était l'entreprise de Raymond Sebon, dont l'apologie promise par Montaigne se révèle en réalité une redoutable entreprise de sape. Pour lui, les sens obscurcissent les conceptions de l'âme. Les pensées dures n'ont guère plus de force ou de fondement que les divagations nocturnes dont l'homme n'est pas le maître. Son agir, dit-il, ses actions, dont il tire tant de gloire et de vanité, se réduisent en fait à bien peu. Montaigne prépare la conclusion des essais. Puissent les hommes se souvenir qu'au lieu de se transformer en ange, ils se transforment en bêtes, qu'au lieu de se hausser, ils s'abattent quand ils oublient, qu'au plus élevé trône du monde, ils ne sont assis que sur leur cul. Pascal utilise Montaigne pour infliger à l'homme une seconde leçon d'humilité. Sa vie n'est qu'une ombre mobile et inconstante, plus apte à le décevoir et à susciter son mépris qu'à pouvoir captiver son attention. Significativement, le chapitre qui contient le fragment, dans l'édition originale des Pensées, s'intitule « Vanité de l'homme ». La vraie vie est ailleurs, comprend-on, que sur le théâtre de foire où ce dernier s'ébat. Elle est en Dieu. Il serait maladroit, toutefois, de ne pas prendre garde à la manière dont Pascal infléchit la réflexion de Montaigne. L'auteur des Pensées, à la différence de celui des Essais, ne conclut pas sur une proposition interrogative mettant radicalement en cause la réalité du penser et de l'agir. Il se contente d'affirmer que la vie est un songe un peu moins inconstant. La clausule finale et le modérateur un peu demandent à être relevés. Pascal se situe sans doute dans la lignée des auteurs baroques qui interrogent la réalité de l'existence humaine, à l'instar de Shakespeare par la bouche d'Hamlet, « To be or not to be », demande le prince du Danemark, rêvant « To die, to sleep, no more ». Mais là où Hamlet, rongé par la hantise de la mort et de l'enfer, voit dans la vie une illusion ne valant guère d'être vécue et qui rend son risque indifférent, autant dormir, Pascal, trop chrétien pour partager ses craintes, introduit une restriction. Pascal fait voix à l'effroi de ses contemporains, effarés par les violences de la guerre de 30 ans, par la fronde, par les développements récents de la science moderne. Il conçoit que cet effarement amène à douter de toute espèce de certitude. Les idéaux de la Renaissance se sont dissipés. La vie humaine, brève et fugitive, coule et échappe aux créatures. Il revient sur ce doute général en relation avec le sentiment de l'écoulement du temps et du songe dans le fragment 164 de l'alias Contrariété. Le texte contient un passage très radical sur l'incertitude que le rêve jette sur la vie diurne elle-même, de nouveau fort proche du soupçon que les Pyrrhoniens font porter sur tout phénomène. Et qui doute que si on rêvait en compagnie et que par hasard les songes s'accordassent assez, ce qui est ordinaire et qu'on veillât en solitude, on ne crût les choses renversées. Comme on rêve souvent qu'on rêve en tassant un songe sur l'autre, la vie où nous pensons veiller n'est elle-même qu'un songe sur lequel les autres sont hantés, dont nous nous éveillons à la mort, pendant laquelle nous avons aussi peu de principes du vrai et du bien que pendant le sommeil naturel. Ces différentes pensées qui nous y agitent n'étant peut-être que des illusions, pareilles à l'écoulement du temps et aux vains fantômes de nos songes. C'est dans le même texte que Pascal se livre à une de ses plus vigoureuses vitupérations contre l'homme. « Imbécile ver de terre !» Cloaque d'incertitude et d'erreur. Mais il a barré le violent passage sur le rêve qu'il avait d'abord écrit. Il ne doit pas être porté à son crédit, mais considéré comme l'expression d'une rengaine des sceptiques qu'il décide d'éliminer. Pascal n'y vise-t-il pas même Descartes, écrivant au début de sa première méditation « Toutefois, j'ai ici à considérer que je suis homme, et par conséquent que j'ai coutume de dormir et de me représenter en mes songes les mêmes choses, ou quelquefois de moins vraisemblables que ces insensés lorsqu'ils veillent. Combien de fois m'est-il arrivé de songer, la nuit, que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu, dedans mon lit. » Descartes, pour sortir du doute qu'il vient de poser, doit recourir ensuite à la complexe démonstration de l'argument ontologique. Descartes, inutile et incertain, écrit Pascal. Un passage de la sixième méditation se prête aussi au rapprochement avec le philosophe. N'est-il pas, autant que Montaigne, la cible de Pascal dans le fragment 229, donnant à entendre leurs captieuses interrogations et non point un avis personnel? L'hypothèse semble légitime alors que l'auteur emploie l'évocation du doute des Pyrrhoniens pour l'opposer, dans le fragment 164, aux assertions des dogmatistes et en tirer finalement l'idée que les uns et les autres s'abusent. Leurs considérations sont impropres à dissimuler que la conscience éveillée de la réalité est une de ces vérités premières, intuitives, fondamentales que Pascal évoque dans la préface d'un traité du vide. En fait, la réflexion du fragment 164 ne peut pas être détachée du titre de l'alias où la pièce se trouve, Contrariété. Pascal utilise le doute pyrrhonien ou cartésien pour montrer que l'homme est plus que tout, je le cite, sujet de contradiction, chaos, rebut, mais aussi gloire de l'univers. L'homme est essentiellement nouveauté et monstre, c'est-à-dire sujet d'étonnement, instable, composite, bizarre, animal dépourvu d'unité. Pascal fulmine alors « Taisez-vous, nature imbécile ! Apprenez que l'homme passe infiniment l'homme et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. In fine, Pascal exhorte la créature à prendre conscience de la façon dont elle excède ses limites apparentes, dont elle participe en réalité de la nature de Dieu. L'humiliation ne vaut que pour la contradiction qu'elle appelle de façon nécessaire et prévisible. S'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante et le contredis toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Chansonne le fragment 163. L'homme est double, incapable de se comprendre lui-même, sinon à se projeter en Dieu, de sorte qu'il se découvre à la fois infiniment grand par son Créateur et corrompu par le péché, inexorablement déchu. Pascal invite son lecteur à une contemplation du mystère du péché, sans lequel nous ne pouvons avoir aucune connaissance de nous-mêmes. Assouplissant les condamnations prévues par la confrontation de la vie et du songe, ou barrant une comparaison qui virait à l'identification de l'une à l'autre, Pascal montre qu'il récuse le topos baroque au bénéfice de la mise en évidence d'une contradiction et d'une fustigation autrement dynamique que les dilutions de la vie en rêverie. À l'horizon du fragment 653, nulle évanescence onirique, mais l'urgence de se convertir, de dissiper le clair-obscur et les ombres du songe, de vivre au grand feu du buisson ardent célébré dans le mémorial. Hanté par l'écoulement de toutes choses, par le flux incoercible des êtres et des fleuves, Pascal est, sans surprise, profondément sensible au thème baroque de la vie comme un songe. Non pour s'y complaire, cependant. Le ressassement musical du fragment 653, variation renouvelée à partir d'un nombre très limité d'éléments, n'invite pas à l'assoupissement, n'engage pas à se laisser aller à un molle bercement, mais à le rompre, à l'instar du rétablissement harmonique vigoureux qu'opère l'alexandrin final.
Car la vie est un songe un peu moins inconstant.
Martèlement régulier et décidé qui nie ce qui a précédé. La tonalité poétique du passage n'a pas vocation à favoriser une douce et béate torpeur ou à autoriser le frisson convenable et éphémère du beau fait ornement. Pascal mobilise toutes les ressources de l'art le plus consommé, mimant peut-être le discours de ses adversaires, afin de séduire son lecteur, d'instiller, d'insinuer insensiblement en lui la vérité, seul remède contre l'infection du péché. Le poème, ici, est une arme contre le doute et les susurrements du malin.
Les séries de Canal Académie.
Canal Académie.